RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh, oh, ton mortel. Donne-moi ton short.
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous du mardi en podcast sur rmc.fr. Et aujourd'hui, c'est un spécial Victor Wembanyama parce que Victor a disputé son premier match de pré-saison avec les Spurs la nuit dernière contre OKC. On va en parler avec la Dream Team, Fred Weiss, Arnaud Valadon et Stephen Brun. Bonjour messieurs.
Salut Pierre.
Alors, première question tout de suite, comment avez-vous regardé ce match? Juste le petit résumé tranquille, le résumé long, le résumé intégral, enfin le match en intégral ou le match en direct. Fred, tu t'as veillé cette nuit pour
regarder le match de la première mi-temps et j'ai eu la chance que comme il a quasiment pas joué la deuxième, j'ai bien misé.
T'as été le plus malin, Steve.
Moi, j'ai regardé la première mi-temps uniquement ce matin.
En différé, mais en intégralité.
Oui,
tout et toi, Arnaud ?
J'ai fait mon petit mode préféré avec le café ce matin, le all possession. La NBA te découpe toutes les possessions. Et j'ai regardé...
De Victor ? Alors, toutes les possessions
du match. Et comme je savais que Victor avait très peu joué de la deuxième mi-temps, donc j'ai vu toutes les possessions de la première mi-temps et un petit bout du début de la deuxième mi-temps où il a joué.
Bon, il a quand même mis 20 points. On va y revenir tout de suite avec une première question. De quoi est-il capable pour sa première saison? Peut-il emmener les Spurs, par exemple, en play-off? On en débattra tout de suite, là, dans un instant. Ensuite, l'équipe de France. Parce que c'est vrai que maintenant qu'on sait que Embiid ne viendra pas, je vais vous poser cette question. Wembanyama, pour vous, doit-il être le leader des Bleus pour la campagne 2024? Est-ce que c'est vers lui qu'on va aller pour les ballons importants, pour le shoot de la gagne, ce genre de choses? Est-ce qu'il est déjà, selon vous, le leader des Bleus, avant même d'avoir vraiment porté le short de l'équipe de France? Parce que pour l'instant, c'est que des apparitions. Et puis, alors là, on va innover dans la partie historique. Ça va être l'histoire, mais dans le futur. Voilà, nous allons parler de
dans le surplus.
Quel est le prochain Français à affoler la NBA après Victor Wembanyama? Vous allez peut-être me sortir des noms que je ne connais pas. C'est possible? Steve, j'ai l'impression que tu prépares un gros coup.
Peut-être. Surprise.
Je vois ta tête, en fait. À force de travailler ensemble, je vois ta tête que tu prépares un gros coup.
Moi, je vais parler d'un garçon qui s'appelle Liam Brun, qui a 2 ans et demi.
Des mains en or.
Et puis le quiz, vous voulez le thème du quiz? Comme ça a commencé déjà à phosphorer, là.
Vas-y. À phosphorer.
Le thème du quiz,
c'est...
Les numéros 1 de la draft.
Les numéros 1 de la draft.
On l'a jamais fait, ça.
C'est incroyable.
The Incredible Baby. Et attention, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a des obscurs. Hein.
Bah, il y en a depuis très
connus
en fait.
Et certains qui ont totalement disparu. Donc rendez-vous tout à l'heure pour le quiz spécial numéro 1 de la draft. Car Victor Wembanyama est bien le numéro 1 de la dernière draft NBA.
Wembanyama and Holden comes off to Dort. Rebound and out to Wembanyama. And there you go.
Oh, Victor Wembanyama!
Et bonne défense à nouveau, et derrière!
Oh, yeah. Ça court!
There we go!
Yeah, I'm not gonna get too many of those blocked.
There's the block by Victor!
La possession toujours pour les Spurs.
Wow!
Wow!
Spurs harass Wallace into a turnover and.
Pour Victor Wembanyama
qui dégaine
tout de suite sur la remise en jeu.
He motors in the lane, scoop shot. Oh, Bobby goodness. You're thinking, how's he gonna dunk it? No, I'll just show you this.
Oh, il est retour, Wembanyama, ça fait deux.
A second three, Wembanyama, it's another jumper.
Alors, le premier match de pré-saison pour Victor Wembanyama hier soir, c'était donc les Spurs face à OKC. Il y avait un duel dans le match avec Chet Holmgren, qui est le numéro 2 de la dernière draft, donc la draft 2022. Et en 19 minutes et 22 secondes, Victor a les stats suivantes, 20 points à 8 sur 13. Ça, c'est quand même un excellent pourcentage. 5 rebonds, pas de passe décisive, 2 interceptions et 1 bloc.
Et 4 balles perdues.
et 4 ballons perdus. Ah voilà, alors vous êtes le spécialiste de la négativité.
Oui.
Vous êtes Ruiz du basket.
Non, pas la blague de la négativité.
Les balances.
Commencez pas, parce que moi je vais vous envoyer Luis Enrique, on va régler le problème. Donc 19 minutes 22 secondes et très peu de temps de jeu en deuxième période. On va se poser la question, de quoi est-il capable pour sa première année? Arnaud, juste en un mot, d'abord, quelles premières impressions a-t-il fait là-bas aux États-Unis?
Écoute, il n'a pas raté son match. Évidemment, le duel avec Chet Holmgren, même si on pourra mettre un bémol, on n'a pas vu Victor défendre sur Chet Holmgren. On a vu un Victor Wembanyama plutôt au large. Et d'ailleurs, c'est un peu une des questions qui revient. Greg Popovich n'a pas tranché. Est-ce qu'on doit l'utiliser sur le périmètre? Est-ce qu'on doit l'utiliser au poste? Là, on l'a vu même défendre sur des joueurs beaucoup plus petits. Victor Wembanyama qui a mis un petit peu de temps avant de se mettre en jambe dans le premier carton. Au bout de 5 minutes, il a pris feu. Il y a déjà une action d'éclat qui fait tous les highlights. C'est ce fameux up and under, c'est-à-dire qu'il attaque le cercle, il feinte d'aller essayer de finir en haut pour finir en bas avec un magnifique toucher et évidemment ses longs segments. Mais ce qu'on va peut-être retenir et ce qu'on retient du côté des États-Unis, c'est son activité, notamment avec ses bras pour gêner. On l'a vu venir énormément aider sur les tentatives de drive adverse. Il a volé quelques ballons et c'est peut-être là qu'il fut le plus intéressant. Offensivement, on va dire c'est bien, même si Chet Holmgren a montré peut-être un peu plus de choses et qu'on n'a pas vu Victor défendre sur un véritable pivot, surtout que, ou en tout cas un ailier assez grand, un ailier fort assez grand. Et Chet Holmgren, il a un petit peu le
il
même
a des
gabarit
meilleures stats,
que
légèrement
Victor,
meilleur quoi.
Légèrement plus meilleur. Après, c'est de la pré-saison. On va prendre des pincettes et on écoute, écoute Victor Wembanyama sur ses premières impressions. Il s'est exprimé en français juste après le match.
Mes premières impressions sont très positives. Je me suis senti vraiment bien dans cet environnement et le jeu, la manière dont tout bouge et les espaces et tout, c'est vraiment, je suis fait pour ça, quoi. Donc, je me suis vraiment, vraiment bien senti.
Je suis fait pour ça, on l'espère. On n'en doute pas d'ailleurs. On va pas faire 3 heures sur ce premier match. Juste une question, pourquoi est-ce qu'il joue pas le money time? Est-ce que ça va être ça aussi en saison?
Parce que c'est déjà pas le money time. Tu gagnes pas ton argent sur les matchs de pré-saison. Il fallait qu'il montre 2-3 trucs, il les a montrés. C'était intéressant. Moi, ce qui m'a...
Sur les premiers matchs de la saison, est-ce qu'on va le voir dans les minutes?
Oui, mais bien sûr. Dès que la vraie saison va commencer, on va le voir évidemment. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa sérénité. C'est-à-dire que pendant les 5 premières minutes, il touche pas de ballon. Mais il ne force pas pour autant. Il ne s'affole pas. Tu sens vraiment que le mec est sûr de son basket et sûr de ses coéquipiers qui vont le trouver au bon moment, qui vont le rechercher. Et cette volonté de courir permanente, on l'a vu, hein, c'est un Yann Bonato 14.0, parce que c'est vrai qu'il conteste le shoot et directement il part en contre-attaque pour pouvoir avoir des paniers faciles près du cercle. Moi, je trouvais un premier match intéressant. Effectivement, c'est juste un match de pré-saison, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est important de rentrer serein et il l'a été.
Pour compléter, c'est toujours bien d'avoir fait une belle prestation, parce que s'il avait été mieux.
4 ballons perdus quand même.
Oui, 4 ballons perdus, ça veut dire qu'il y a encore des repères à trouver avec ses coéquipiers. C'était
très hurrah basketball quand même.
Il n'y a rien de structuré.
Et puis tous les ballons qui ont été perdus en essayant de le servir aussi.
Il n'y a pas grand chose de structuré, mais là, tu as vu peut-être les deux joueurs du futur, Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Alors, ils ne jouent pas le même poste, c'est pour ça que Chet Holmgren a plus de rebonds parce qu'il joue big man et qu'il est plus près du cercle. Victor a une position hybride où il fait un petit peu ce qu'il veut sur le terrain. Mais c'est toujours bien de faire une belle perf, parce que s'il était passé à côté, on en aurait fait des caisses, ça aurait mis des doutes et des points d'interrogation. Là, voilà, il a mis ses 20 points en 19 minutes, ses 5 rebonds.
Il y a une action dans les highlights,
c'est tout ce qu'on veut. Sur des matchs qui, ça vaut peanuts.
Et la rivalité avec Chet Holmgren, c'est peut-être ça ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'ils se sont un petit peu cherchés, chambrés.
Il lui a cassé la bouche.
Wembanyama fait une action à un moment où il fonce un petit peu tête baissée dans Chet Holmgren, il finit, il marque avec la faute. Holmgren, derrière Wembanyama, il flex comme on dit, c'est-à-dire il monte les biceps comme ça.
Il n'y a beaucoup de biceps.
Holmgren a répondu sur une action un peu plus tard dans le match, et là sur les réseaux sociaux, Holmgren a dit sympa ton headbutt, c'est-à-dire que Wembanyama avait foncé tête baissée dans Holmgren.
C'est sûr qu'un coup de tête, c'est difficile à arrêter. Chet Holmgren, non, mais c'est ces deux garçons qui sont amenés peut-être à dominer la ligue.
Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'il peut espérer lui, Wembanyama? Qu'est-ce qu'on attend de lui sur cette première saison? Alors les Spurs, je ne sais pas si c'est très fort déjà. Ça va aussi dépendre des autres joueurs de cette franchise, la première saison de Wembanyama.
Il faut se rappeler que l'année dernière, je crois que c'est la pire défense et la 29e attaque. Donc concrètement, tu ne vas pas passer du tout au tout. Même si c'est un joueur fantastique, tu ne vas pas passer du tout au tout. Moi, je les vois pas avoir les play-offs ni avoir les play-ins, mais gagner plus de matchs, ou une petite dizaine peut-être en plus.
Pas plus. Pas très ambitieux, quoi.
C'est difficile d'arriver, pour moi, mais c'est difficile d'arriver dans une ligue où tout le monde est au point, avec beaucoup de jeunes joueurs autour de lui, parce que le futur de cette équipe, c'est vraiment des jeunes joueurs. dans tous les sens du terme. Donc c'est important de voir comment ça peut tourner ensemble. Alors ça peut prendre, hein, évidemment, mais sur le principe, il y a beaucoup de joueurs de 22, 23 ans autour de lui.
Qui sont les autres joueurs valables dans cette équipe?
Keldon Johnson, Devin Vassell, qui Jeremy devrait signer 5 ans là, pour 146 millions de dollars. Donc,
Trey Jones,
qui est meneur très important, effectivement, et Asushan aussi, mais qui est un peu sur le même poste que Wemby. Ils peuvent jouer ensemble, évidemment, mais qui est un peu un 4 lui aussi. Donc, il y a un potentiel, mais je demande à voir quand même.
On est encore sur une équipe en formation. Clairement, Victor, ça va être une année de formation, d'apprentissage à l'heure accélérée, parce qu'il va avoir un rôle majeur. Maintenant, Fred a raison de le dire, moi, je n'ai pas de grandes attentes sur les résultats. Ils ont gagné 22 matchs l'année dernière. Ils en ont gagné 20, 22 même. 22. Moi, j'attends 10 victoires de plus. Ce ne sera pas suffisant pour les playoffs. Et ce n'est même pas l'objectif, je pense, des Spurs, parce que Popovic, il a encore envie de faire progresser ces garçons-là.
Et d'avoir un tour de draft,
exactement. Je pense qu'il y aura une gestion des victoires, parce que les Spurs peuvent prétendre une nouvelle fois à un pic de draft très haut la saison prochaine. Et là, ça changerait la donne. Si tu récupères le 1 ou 2, il y a quelques garçons qui sont très bons. Normalement, il y a deux garçons de Kentucky qui vont être très forts. Et là, ça peut changer la donne. Les gens font les comparatifs Victor Wembanyama, LeBron James.
LeBron,
il arrive à Cleveland, ils avaient gagné 17 matchs. Après, ça passe à 32 victoires. Sauf que LeBron, il arrive dans une équipe où il y a Carlos Boozer, qui est un joueur affirmé et qui sera All-Star. Ilgauskas a été All-Star. Cool. Ricky Davis est un bon scoreur. Idem si tu compares avec les Spurs, puisque les Spurs, ils avaient tanké, mais Duncan, il arrive, il y a David Robinson, il y a Shane Elliott, il y a Avery Johnson, qui sont trois joueurs fantastiques de NBA, donc forcément, il y a les playoffs directement après. Les Spurs sont une équipe jeune, sur les 10 joueurs qui sont amenés à avoir des minutes, je crois que c'est 24 ans de moyenne d'âge,
ouais, c'est
très peu. Voilà, Popovic, il va faire progresser ces garçons-là, peut-être avoir des ajouts à la draft et des renforts. Les Spurs, pour moi, c'est l'objectif 2-3 ans.
Objectif 2-3 ans, peut-être, ouais. Quand même, dès la deuxième année, quand même.
Bah, les Cavs ont entendu 3 ans avec LeBron avant de faire les playoffs, hein.
Deux choses, les stats projetés. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de fantasy qui nous écoutent.
Les stats projetés maintenant.
Bah, c'est en gros, ESPN te propose.
Il les jette comme ça.
The projection stats. ESPN annonce Wembanyama à 20 points, 9,5 rebonds,
2,5
passes, 2,4 contre, 15 tirs pris par match avec un pourcentage à 49%.
Alors,
à peu près.
Ça m'intéresse. Comment on détermine le 49%?
Un mec qui n'a pas joué du tout, je comprends pas. Ça devient ridicule.
C'est hallucinant, mais c'est fort parce que ça se trouve, ils auront raison. 2,4 contre, c'est énorme. Hein. C'est énorme, 2,4 points, parce que tu peux être meilleur contreur de la NBA.
Tu es meilleur contreur de la Ligue, Victor. À 2,24 avec des tentacules comme ça, j'ose espérer qu'il va
bon
toucher
timing,
des ballons.
Il saute haut, il a le bon timing, il a des bras énormes. Oui, il doit être bien classé dans les meilleurs contreurs, oui.
Non, et je rejoins Fred et Stephen sur aller plus de 10 victoires, parce qu'il y a aussi ce paramètre-là. Ils sont dans une division très solide, et tu joues plus tes équipes de la division. Memphis, Pelicans, Mavs, Rockets.
Et même la Conférence Ouest.
Il y
a 11 équipes qui vont se battre pour être dans les 8 ou pour être dans les 10 de la Conférence Ouest. Je te compte pas les Spurs quand t'étais de
Mais c'est la double lame.
Phoenix, Lakers, Warriors, Minnesota, les Clippers, les Pelicans, OKC, Atlanta. C'est la jungle, cette Conférence Ouest. Donc voilà, écoute, ils sont là pour apprendre, progresser. Je pense que c'est le mot-clé. Progresser.
Maintenant, si on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas comment Greg Popovich va l'utiliser, plutôt à l'extérieur ou en pénétration, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que pour le développement du joueur, il y a une tendance qui vous semble meilleure qu'une autre, Fred?
Moi, j'ai tendance à dire que...
J'espère que Wembanyama... Alors moi, je connais rien au basket, mais moi, j'espère que Wembanyama...
T'as vu son documentaire,
un joueur extérieur qui va shooter et puis
défendre. T'as vu son documentaire, par contre.
J'ai vu son documentaire.
Il va jouer à l'extérieur.
J'ai pas trouvé ça ouf, hein. Je vous dis franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Il y a des super séquences, oui. deux trois séquences vraiment très sympas où on est dans son intimité. Je crois que le frère, il est génial.
Il est génial,
le frère,
Oscar.
Il est super funky. J'ai beaucoup
aimé aussi. C'est un coach à Nanterre aussi.
Il y avait pas assez de matière pour en faire 1h40.
C'est quoi ma séquence préférée? C'est quand il est une espèce de salle de gym et il fait des contorsionnisme et tout ça, du gainage. J'ai trouvé ça. Ouais. Enfin, le mec, il met son corps dans des positions exceptionnelles.
Moi, j'ai bien aimé Vincent Collet qui.
L'école de la DDE.
C'est comme un plot. Quel pouce de cône de la DDE.
Le cône of the DDE.
Et puis le tirage au sort du premier tour de draft. Oui, lorsqu'il apprend que ça va être les Spurs, la séquence
oui.
est sympa.
Non, oui, on l'a déjà vu 50 fois.
Ouais, bah oui, bah, forcément c'est la meilleure.
Je trouve qu'ils survolent trop Vegas, qui est un peu le point de départ hype.
Est-ce qu'ils ont les droits d'image de ça, etc. C'est la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'effectivement, ils le survolent trop.
Mais il y a quand même une caméra avec les Mets, compagnie.
Ouais, je suis assez surpris, effectivement.
Et la draft aussi, alors il n'y a pas les droits, mais peut-être, voilà, ils ont vraiment vécu en plein centre de Times Square.
T'as pas vu dans le documentaire?
Non, je me suis cherché. Je me suis cherché, j'étais là. J'ai regardé avec madame, je lui ai dit, attends, on va me voir, raté.
Par contre, à un moment, on entend RMC, je crois. Hein. Non ? Il n'y a pas une séquence où on entend la radio, c'est RMC ? Ah. Dans le bureau de Jérémy Medjana.
Ah oui,
ou
il écoutait quand j'étais en train de tailler comme sport, en fait. Il écoutait la séquence. Il écoutait la séquence, il se la mettait en replay.
Bon, revenons au jeu. Qu'est-ce que vous espérez voir de Victor Wembanyama ?
Bah, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que ça m'a surpris de le voir défendre sur Lou Dort pendant une bonne partie du début du match. Moi, ce que j'aimerais, c'est de voir faire exactement ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire effectivement prendre des shoots extérieurs, jouer un peu à l'extérieur, faire de la création. On l'a vu, meilleur passeur, et dans la vision de jeu, j'ai trouvé plus intéressant aussi. J'aime bien cette faculté qu'il a, effectivement, à partir en contre-attaque, à être le premier en position et qu'on essaie de trouver directement.
Faire la carotte un peu.
Ouais, il joue un peu la carotte, oui, mais j'ai l'impression que c'est quand même une consigne oui. De jeu. Moi, honnêtement, ce que j'ai vu sur ce match-là, c'est à peu près ce que j'attends de lui. Alors,
moi, c'est de savoir où il va jouer. Il y a débat quand même, savoir sur son utilisation,
il va jouer
plus ou moins près du cercle.
En fonction de l'opposition, en fonction qui va défendre sur lui. Si c'est Draymond Green qui défend sur lui, peut-être qu'il jouera dos au panier. Si c'est un grand, il va l'emmener au large. Je ne crois pas qu'il faut réduire Victor aujourd'hui à « tu joues ici, tu joues ici ». Je crois qu'il a cette capacité et ce talent unique de pouvoir jouer un peu partout sur le terrain.
C'est pour ça
aussi que le jeu des Spurs hier n'était pas trop structuré, parce que tu as un garçon hybride qui peut se balader partout, remonter la balle, éventuellement jouer des pick and roll, jouer à l'intérieur.
Est-ce que tu as vu qu'il a joué un pick and roll avec balle en main?
Exactement.
Qui est intéressant aussi. Ouais.
Victor Wembanyama, donc c'est le thème de ce Basket Time sur RMC. Après, sur RMC.fr bien sûr, comme chaque mardi, après les Spurs, l'équipe de France.
Victor Wembanyama. Oh, bah ça serait une claquette, son premier panier en équipe de France.
Breaking news from Ramona Shelburne, and it has something to do with the international stage as well, my friends, because Joel Embiid has committed to play for Team USA in the 2024 Olympics.
On va faire vite maintenant, 4 secondes pour Andrew, c'est dur. Oh, quelle hauteur, mais
il
quelle hauteur.
Il est arrivé derrière avec la main gauche, les bras déjà levés et au-dessus de tout le monde, s'il vous plaît.
Remember, this was a point of discussion because Joel Embiid had the citizenship to also play for France as well. We weren't sure.
Oh, le rebond acrobatique.
On s'en sort bien.
Il y a des bras tentaculaires, Victor, quand il redescend ce rebond là.
Ah ben, je dis pas qu'il n'y a pas eu de rétractation. Je dis qu'il a dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de France. C'était ça à la base qui a commencé un petit peu toute cette histoire-là. C'est qu'il a dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de France.
Victor Wembanyama à 3 points.
Voilà, ça c'est... ce garçon a quand même un truc.
Alors, on va parler de Victor Wembanyama et de l'équipe de France. La question est la suivante, après le refus de Joel Embiid, est-ce que vous estimez que Wembanyama doit être le leader des Bleus dès sa première campagne, dès la saison 2023-2024 avec la perspective des JO de Paris ? La question n'est pas si évidente, parce que si c'est lui, c'est pas un autre. Et évidemment, le choix...
C'est une belle phrase, hein.
Le choix, il est peut-être aussi un choix de génération. Est-ce que tout de suite, on donne les clés à Victor Wembanyama ou est-ce qu'on l'intègre à une équipe qui a quand même des repères, même si bon, il y a le fiasco de la dernière Coupe du Monde. Fournier, De Colo sont toujours là. Yabusele peut aussi prendre beaucoup de responsabilités. Quel choix va faire Vincent Collet ? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez, Fred ?
Les clés du jeu, t'es d'accord ?
Ah, les clés
vraiment,
du jeu.
Vraiment, on parle terrain, parce que
bien sûr, les
leader, clés du jeu. Ça englobe...
Oui, alors peut-être que pour prendre les clés du jeu, ça a des implications hors terrain, mais ça, c'est difficile d'anticiper. Le choix du sélectionneur, quel doit-il être ?
Ben moi, j'ai beaucoup changé d'avis, parce que j'étais le premier à dire qu'il fallait le coucouner un petit peu, attendre un petit peu qu'il arrive tranquillement, etc. Mais vu ce que j'ai vu de l'équipe de France, je me dis que oui, j'ai envie qu'il soit le leader.
Allez, on y va, ouais, on change d'air.
Alors effectivement, on n'y a jamais vraiment cru à 100% du côté de Joel Embiid.
Là, non, mais c'était une vraie possibilité.
C'était une vraie possibilité.
Bah, moi, j'ai cru à 100%, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, j'ai cru à 100%.
Moi, j'ai pas cru à 100%. J'ai cru un peu, j'étais à 50-50.
Quoi qu'il en soit, ça change tout, Embiid ou pas Embiid.
Évidemment, sans Embiid, je me dis... Le meilleur joueur, la plus grosse attente, la plus grosse hype, le joueur dont on attend justement de progresser le plus rapidement, de faire ses gammes en NBA, celui qui va jouer certainement le plus avec Rudy Gobert, parce que concrètement, en NBA, mis à part Rudy Gobert, personne ne peut jouer autant que Victor Wembanyama. Ben, j'ai envie de me dire, faisons comme les autres nations, on a une superstar, une étoile, pourquoi attendre ? Je comprends pas comment attendre.
Donc pour toi, il doit en tout cas avoir les clés du jeu.
C'est-à-dire que c'est soit l'équipe de France est soit vieillissante, soit l'équipe de France est un peu vieillissante, évidemment, avec Nando De Colo par exemple.
Parce que t'as quand même des sacrés leaders d'attaque avec Fournier, De Colo.
Il faut changer des choses là.
Je pense que le constat qu'on a vu à la Coupe du Monde, on voit que quand t'as seulement Evan Fournier comme leader offensif, parce que concrètement c'est tout ce qu'on avait, et on lui a beaucoup tiré dessus.
Ou alors il y en a d'autres, mais peut-être qu'on n'a pas voulu leur donner.
On n'a pas voulu leur donner peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que le constat qu'on peut faire, c'est que Evan Fournier a beaucoup shooté. que ça soit de sa faute ou pas, il a beaucoup shooté. Et à mon sens, c'était justement parce que personne ne voulait prendre sa responsabilité. Donc je pense qu'il faut réguler ça en donnant le ballon à Victor Wembanyama.
Mais il faut clairement changer des choses, surtout que Victor Wembanyama, si jamais il est amené à être le leader offensif, même si dans une équipe c'est toujours compliqué de dire toi c'est toi le numéro 1, c'est toi le numéro 2, enfin ça se fait sur le terrain, ça se fait un petit peu.
Tu sais quand même au départ des entraînements. Qui va avoir le ballon dans les moments clés.
En fonction des plays que Vincent va mettre en place, il y a plus de plays pour Victor ou d'autres. Victor a été le leader avec les Mets l'année dernière, il me semble, sur la saison entière et sur les playoffs. Malgré son jeune âge, ça a été
Après, il y avait Tremont Waters qui était quand même là pour réguler un peu.
Il est parti rapidement.
Non, il n'est pas parti rapidement, parti sur la fin.
Attends, tu parles de leader de scoring, moi je te parle de leader, j'ai l'impression que Victor...
Le leader de punching ball.
Non, mais leader, et même dans le documentaire, même si...
GM de l'équipe.
Et tu t'aperçois que Victor a beaucoup parlé, enfin il avait quand même une certaine influence sur ce groupe-là, le leader vocal. Il va passer une année avec les Spurs ou sur le terrain, ça sera éventuellement l'option numéro 1 mise par Popovich. Donc ça fait 2 ans de suite avant d'arriver en France où il aurait eu beaucoup de responsabilités offensives. Donc il sait ce que c'est. Tu vas pas le jeter.
Le seul d'ailleurs.
Tu vas pas. Oui.
Ça sera sûrement le seul des
voilà.
bleus. Hein.
Tu vas pas le jeter dans le vide, Victor, si tu lui donnes les responsabilités d'une équipe. Parce que dans cette équipe de France, qui est une option numéro 1 en NBA ou en Europe? Gershon Yabusele, ça se dit. À la rigueur, je veux bien l'entendre, il joue beaucoup, même si le Real Madrid est un système particulier, il y a beaucoup de joueurs.
Capacités.
En tout cas, il en a les capacités. Mais sinon, en NBA, Nico n'est plus l'option numéro 2. Rudy n'est pas
réellement en jeu.
Evan Fournier a prouvé que même en étant sous-utilisé en NBA, il peut continuer d'être un leader d'attaque en bleu. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'expérience, de vécu
et de
qualité pour le faire.
Oui, mais à l'Euro, on pêche en attaque, et là, à la Coupe du Monde, on a pêché. Je ne dis pas que c'est de la faute d'Evan, mais dans ce système-là, on voit qu'on n'y arrive pas forcément.
Faut changer, on a une superstar.
On a évidemment besoin d'Evan.
Tout le monde mise sur lui, tout le monde pense que c'est un super joueur.
Et puis,
pourquoi ne pas faire comme tout le monde ?
Il a cette capacité éventuellement à faire le lien entre nouvelle génération et ancienne génération. Peut-être que l'ancienne génération a peut-être pas ce respect vers les nouveaux qui n'ont peut-être rien accompli en NBA ou rien accompli en Europe.
Je veux dire que ce sera plus facile pour un Ando ou un Evan de donner la balle à Wembanyama
parce qu'il s'est imposé en NBA, parce qu'il a un
numéro
MVP
de la France.
Et je pense qu'il y a une vraie cassure entre les jeunes qui veulent arriver et les anciens qui ont fait des grandes choses en NBA et que peut-être qu'il n'y a pas ce respect.
C'est-à-dire, par exemple, Sylvain Francisco
ou Elio Kobo. Peut-être que ces garçons-là n'ont pas le respect des autres. Et Victor va peut-être pouvoir faire ce lien et surtout, je pense qu'il va amener ce côté nouveauté, fraîcheur qui fait du bien parce que là, on ronronne en fait. On ronronne un petit peu trop. Et qu'on se dirige tout droit vers un fiasco Rio 2016 où c'est la dernière danse avec les anciens. Et je crois que Victor va être là pour mettre cette petite musique, cette petite nouveauté qui va nous faire du bien.
Et va réussir à motiver tout le monde parce qu'il a tellement faim tout le temps, il a tellement envie de montrer les choses. Il va entraîner les gens avec lui.
Une découverte pour lui, l'équipe de France Victor. Ça va être une découverte.
Mais est-ce qu'une saison, pétillant. Donc on vient de parler de ce que vous attendez de lui en NBA, est-ce qu'une saison d'apprentissage en NBA te suffit entre guillemets
mais
pour
il va jouer
pour
il aura les ballons il va,
ça sera un leader des bleus déjà je veux dire
si tu joues 30 minutes par match
il va jouer beaucoup il va mettre des points on va lui mettre la pression parce que comme ça sera le joueur le plus important de San Antonio on va lui mettre la pression sans arrêt
c'est pas la même chose
il va progresser énormément
c'est pas la même chose quand en club au quotidien tu n'as pas comment on va dire ça d'exigence de résultats immédiats. Ce qui sera le cas en compétition internationale.
T'es pas dans sa tête.
T'es
pas dans sa tête.
Mais lui aura des exigences pour ses prestations.
Non, tu connais pas le garçon.
Mais c'est pas la même chose d'être formaté et d'expérimenter les choses.
Au match, il y avait une exigence de résultats quand même, Pierrot. Alors, tu veux bien, c'est le championnat de France, c'est compris.
Ce que je veux dire, tu vas passer d'une saison NBA où, quelle que soit l'exigence au quotidien et quel que soit le niveau qui est exceptionnel, tu n'auras pas une pression systématique du résultat. Une compétition.
Du résultat collectif ou individuel ?
Les deux. Donc collectif avant tout. Collectif. À une compétition ou les Jeux Olympiques où chaque match est pratiquement un coup près.
Je crois que
c'est pas du tout la même chose.
Oui, mais tu te méprends sur sa maturité. Vraiment, je pense que tu te méprends sur sa maturité.
Il y a une question de maturité, il y a une question aussi d'expérience, Fred.
Oui, mais
quand on vit les choses, c'est pas pareil.
Alors, ce garçon a passé toutes les étapes avec succès.
Exactement. À chaque fois qu'il y a un truc, on dit, ouais, c'est bon, c'est son plafond de verre, il va jamais passer au-dessus. À chaque fois, il a réussi ce premier match-là, juste pour revenir à son premier match officiel avec San Antonio. Le Tim Duncan, son premier match de pré-saison, il met 19 points. Lui, il bat ce record. La première fois qu'il joue. Alors oui, tu vas me dire, c'est pas un match qui est important en soi. Sauf qu'il est capable de se transcender à chaque fois, puis, d'amener les gens avec lui. Il est fantastique.
Il va vouloir déjà marquer ses esprits.
Tu veux l'épouser ou quoi?
Il veut déjà marquer ses esprits parce que je pense qu'il voudra surtout pas qu'un Chet Holmgren lui pique le trophée de rookie de l'année. Donc individuellement, il va vouloir collectivement.
Ou Scott Anderson aussi.
Ou Scott Anderson.
Ou Scott. Si t'as pas vu le documentaire.
Chet Holmgren peut pas être rookie de l'année.
Si, parce qu'il a pas joué.
Il a pas la première année.
Tu joues pas. Match,
oui,
okay.
Oui, considéré comme rookie.
Bah, c'est le top 3. Hein,
et clairement,
3,
quand on voit ce que Victor peut faire balle en main pour l'équipe de France, d'avoir ce joueur qui à la fois peut être dominant sur son match-up en attaque, de faire soit marquer lui-même son panier, soit déclencher des choses par sa qualité de passe.
Il a tellement faim déjà.
Moi, ça me paraît évident qu'il doit être considéré comme l'arme numéro 1.
Et il va permettre aussi, dans les adversaires de l'équipe de France, de peut-être changer le regard quand tu joues la France. Ça fait 10 ans, tu sais, Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert, bon, il y a
Garcia Boussele,
les systèmes, tu sais comment ça joue et tout ça. Victor va peut-être amener une autre perspective chez l'adversaire en disant, attention, là c'est plus pareil, il faut les jouer différemment. Si vous avez Gobert et Wembanyama dans la raquette, c'est compliqué, ça veut dire que ça va provoquer des coachings différents en face, des scoutings différents, parce qu'aujourd'hui tu joues l'équipe de France, c'est toujours un peu la même ossature, la même façon de jouer, et ça peut changer des choses aussi sur les
adversaires. Et l'avantage qu'ils ont aussi, c'est la relation coach-joueur. Oui. Vincent Collet l'a eu pendant une année. Il le connaît parfaitement. Il sait de quoi il est capable, même s'il il a des capacités.
Attendez, parce que ce garçon-là a commencé l'émission par. Tu sais, dans la négativité, j'ai dit qu'il a mal perdu. Ça fait 15 minutes qu'il est que là-dedans.
Non, là, c'est pas du tout de la négativité.
C'est pas de la positivité.
Pas du tout. C'est des questions. Parce que.
Tu t'interroges, Pierre. T'as beaucoup d'interrogations.
Moi, je vois un garçon qui va jouer 82 matchs. Ou presque, le résultat n'a pas grande importance. C'est-à-dire, si à la fin, tu es dans un match serré...
Oui, sauf que lui, les matchs, il va vouloir tous les gagner, Pierrot.
Au JO, tu gagnes, tu perds, ça change tout.
Sauf
hein.
Que Wembanyama,
tu gagnes, tu perds, tu rentres à la maison.
Les 70 matchs qu'il va jouer avec les Spurs, il va les rentrer pour les gagner.
C'est pour ça que je parle de maturité du garçon et de compétitivité. Le mec veut gagner tous les matchs, il veut tout le temps être droit.
Tu vas perdre parce qu'il y a des équipes qui sont meilleures que toi.
Exactement.
Mais avec San Antonio, vu que Wembanyama va vouloir s'imposer, dominer son vis-à-vis et gagner les matchs.
Et après, vu que vous êtes tous d'accord, donc c'est lui qui doit avoir les clés de l'équipe de France. Maintenant, comment ça s'organise autour de lui? Qui doit lâcher du leadership? Qui doit lâcher, sacrifier des ballons de shoot?
Evan Fournier, déjà par définition. C'est lui qui en est
entre guillemets capable? Est-ce qu'il va accepter ce rôle? Est-ce qu'il va pas? Alors, on le connaît, c'est un sacré caractère.
Oui, mais je pense que Stephen l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il respecte Victor Wembanyama par son accomplissement déjà. Donc je pense qu'il est suffisamment intelligent. Et lui aussi, c'est un mec qui veut gagner. Donc si tu veux gagner, à un moment, il faut que tu passes le relais, tu donnes le ballon.
Après, il faudra voir aussi ce que va faire Evan cette saison. Encore une fois, on parlait de pré-saison, il a joué hier, il a pu gambader un peu avec les Knicks sur un match de pré-saison. Il faudra voir ce qu'il va faire aussi, Evan, cette saison. S'il repasse,
c'est pas vraiment prévu
s'il
qu'il
repasse
joue,
82 matchs sans
vent.
Jouer, il va falloir se poser des questions.
Quel rôle pour Rudy Gobert à côté de Victor Wembanyama? Est-ce que ça change?
Ils vont jouer ensemble. Rudy, je pense que ça peut faire du bien à Rudy, le fait que Victor soit un grand qui va étirer les défenses.
Il aura plus de ballons d'attaque.
Et qu'il soit un bon passeur. Victor est un bon passeur. Et comme il est plus grand que les autres, les relations intérieures.
Se focaliser sur la raquette pour
voilà,
Rudy.
Si Rudy.
La position high-low, t'imagines.
Exactement. Si Rudy redevient le Rudy de Tokyo, où il prend les bonnes positions, où il a envie d'avoir le ballon, où il va tomber sur les gens.
Et en défense, on est d'accord, une 3-2.
une belle zone défensive, il va falloir y aller, mais mettre des blocs sur les grands.
Autre question, quel meneur idéal? Autre question pratique avec Victor Wembanyama?
Quel meneur idéal? Je sais pas.
Vous êtes là pour ça, on est dans un podcast de basket, vous êtes des grands experts.
Ah, Thomas Hurtel.
Thomas Hurtel, très bien, vas-y, il n'y a pas de problème.
Thomas Hurtel. Non, après, il va falloir que Vincent, je pense, refasse des choix aussi sur Vincent Collet. Le 5 de départ, est-ce qu'on sort Nico du 5 de départ? Est-ce qu'on sort Nando Docolo du 5 de départ?
Gershon, quel rôle?
Les mettre quand dans un rôle un peu à la Rudy Fernandez et Sergio Llull, c'est-à-dire en sortie de banc, et ça t'apporte quand même des garçons de très bon niveau en sortie de banc. Donc,
deux travaux pratiques. Non, c'est comme à l'école, là on a fait la théorie.
Faites-moi votre sac majeur pour 2024.
Allez, 5 majeurs. 5 majeurs.
On l'a déjà fait là.
Mais maintenant qu'il n'y a plus NBA, ça change tout. Et donc, avec la problématique de Stephen, tiens.
Ah non, on n'y croyait pas, NBA.
Qui est prêt?
Moi, je suis prêt, si tu veux.
Allez, le 5 majeur.
Le 5 que j'aimerais voir.
Il y aura un deuxième exercice. Hein.
Mais le 5, pourquoi?
Déjà, à l'école, je n'ai jamais fait un. Pas bon 2.
Non, mais attends, c'est le 5 de départ ou le 5 pour finir le match?
Le 5 de départ.
Toujours qu'il abuse.
Mais il y a toujours un.
C'est la précision.
Tu sais ce qu'il fait là? Il gagne du temps. Il gagne du temps parce qu'il n'a pas la réponse.
Parce que c'est pas la même chose.
5 de départ.
Donc moi, je commence avec Franck Nilikina.
Nilikina.
D'accord. Ensuite, Evan Fournier.
Ok.
Ensuite, Nicolas Batum.
Ok.
Ensuite, Victor Wembanyama.
Ouais.
Et Rudy Gobert.
Tu changes rien, quoi, en gros. Quand on a dit. Bon,
bah, si, Franck Nilikina, déjà, c'est un vrai changement de le faire commencer. Et alors, je garde les deux.
Pourquoi
oui, parce...
Nilikina ?
Pourquoi Nilikina ? Bah, justement, c'était là où je t'attendais. Parce qu'il est capable de bien défendre. Et lui, il n'est pas forcément axé sur l'attaque. Donc, il va servir Wembanyama assez facilement. Et il va être le premier pilier défensif. Et moi, je le trouve.
Là,
je
c'est une équipe de France très défensive que tu nous as fait. Hein.
Oui,
qui peut défendre dur en tout cas.
Oui, qui peut défendre dur, mais t'as deux options offensives qui peuvent être hyper sympas. Voilà ce que j'aimerais voir moi, parce que j'aime bien les grands.
Ok, Steve, prépare une connerie, donc c'est non, Arnaud qui va donner son 5.
Non, mais
je vois, je te connais maintenant, donc je regarde.
Il n'était pas d'accord avec moi, je pense.
Si, moi c'est Andrew Albici sur le poste 1, Isaac Cordinier sur le poste 2, Evan Fournier sur le poste 3, Wembanyama et Rudy Gobert.
Alors attends. Albici Cordinier en 3, tu m'as dit qui ?
Evan.
Ensuite
Rudy et Victor dans la raquette.
Ok. Ce qui veut dire que là, pour le coup, c'est nouvelle génération, changement en tout cas important.
Oui, changement important parce que je veux un gros défenseur. Je veux deux gros défenseurs. C'est ce qui nous a coûté cher un petit peu à la Coupe du Monde. Je veux que Evan soit le seul à éventuellement moins bien défendre de 5 de départ.
C'est quoi ?
Cordinier, slasher. Il a été très bon sur la Coupe du Monde. Il s'est bien montré. Je trouve très bon. Il fait un début de saison fantastique avec la Virtus Bologne.
C'est vrai aussi.
En Euroleague. Il a des qualités athlétiques. Très bonne attitude. Donc tu mets lui et Andrew. Ça te met deux gros défenseurs qui ne demandent pas grand-chose en attaque. Ça laisse Evan un petit peu de liberté sur le poste extérieur. Et puis Wembanyama Gobert, je ne vois pas comment tu peux faire autrement. Et okay. Ça veut dire qu'il faut que Gershon, on lui explique que Gershon sorte du banc. Et ça veut dire que tu as Nando Docolo, Nicolas Batum et Gershon Yabusele, trois joueurs en sortie de banc, c'est pas mal quand même.
Moi, c'est la question, c'est le rôle de Gershon. Est-ce que c'est plus facile d'expliquer à Gershon tu sors du banc ou alors de mettre dans un 5 de départ Gershon et Victor ?
Moi, c'est pour ça que je mets Batum pour commencer, pour pouvoir faire entrer Gershon après, pour pouvoir trouver des arrangements et peut-être Wembanyama en 5, etc.
Non, c'est global, c'est la
ton
même 5, chose.
Ton 5. La même que Steve.
J'ai un doute entre Nilikina, je penche, ou éventuellement Andrew. J'ai un petit débat. Après, moi, c'est la question de Gershon Yabusele, son rôle. Est-ce que.
Gershon, tu le mets en première rotation. Tu fais sortir Rudy, tu décales Victor en 5 et tu mets Gershon en 4.
Parce que. C'est en t'écoutant que je me dis que c'est peut-être
en cours de match Batum et c'est pour ça je préfère l'avoir au début et peut-être faire rentrer un Cordinier pour donner du 109.
C'est en t'écoutant où je me dis que c'est peut-être plus facile d'expliquer à Gershon Yabusele la première rotation qui rentre que Rudy Gobert de sortir Rudy du banc.
Ah toi tu veux démarrer avec Victor en poste 5.
Oui. Je me pose la question, mais en t'écoutant.
Je pense que Gershon a plus la capacité de comprendre qu'il peut sortir du banc que Rudy Gobert.
C'est en t'écoutant.
Non, je me demande, Gershon Yabusele, il est censé avoir beaucoup de responsabilités. Et si tu le fous sur le banc, est-ce que tu risques pas.
Oui, mais là, c'est l'équipe de France, c'est pas le club.
Et c'est les JO à la maison.
À un moment donné, t'arrives en équipe de France.
Donc, il faut être capable
d'accepter.
Toi, c'est gérable, c'est possible.
Oui, il faut être capable d'accepter que ton rôle soit moindre.
Dernière question.
Pour la patrie.
C'est un temps mort court. Vous avez 25 secondes pour prendre une décision.
Ouais.
Quart de finale des Jeux Olympiques France-Serbie. La Serbie mène 88-86.
Match offensif, on n'a pas très bien
défendu déjà. Match très offensif, bien sûr.
Avec l'équipe que je t'ai proposée, on ne prend pas 88 points.
Oui, mais c'est le scénario que je vous propose. Ouais. 88-86 pour la Serbie, balle France. Quel système on met en place, Fred ? Tu as 25 secondes pour réfléchir et donner tes
instructions. Pick and roll avec Wembanyama.
Et c'est lui qui prend le
shoot. C'est-à-dire pick and roll, pick and pop, ou peu importe. Mais en
pick
tout cas,
and roll
qui
avec Nando.
Ou Wembanyama qui est en finisseur.
Arnaud, ta solution ?
Pick and roll. Alors après, il faut voir combien. Tu as dit qu'il restait combien de temps ?
Il reste 14 secondes.
Bon, on peut poser un truc. Pick and roll, Nando.
Bah, il a raison.
Le mec, il sort la plaque.
Eh oh, il prend en compte tous les éléments.
Mais c'est important. S'il reste 3 secondes, tu fais pas la même chose que 14.
Ouais, exactement.
Pick and roll, Nando et Victor. À voir comment ça défend et pourquoi pas un tir de Nando. On sait que c'est peut-être l'un des joueurs les plus clutch de notre équipe.
Il fait quand même shooter Nando. Steve.
Moi, je fais un leurre, un play où tout le monde va croire que c'est Victor Wembanyama qui prend la balle et finalement, c'est Evan Fournier qui met un 3 points et on a gagné.
Ok, très bien. Donc, vous êtes 1 sur 3 seulement à donner le ballon de la gagne à Victor Wembanyama. On continue.
Après, tu peux avoir envie de lui donner, mais ça défend bien et tu peux pas.
Spécial Wembanyama dans ce Basket Time. Nous allons essayer de trouver les futurs joueurs français qui vont affoler la NBA.
Oh my goodness, Melvin! Jansa drives the lane and goes up and stuffs it. Shot up. Oh my, Melvin Jansa at the other end.
Rizaché. Voilà, Zachary Rizaché. sachets, la ligne de fond fermée par Konaté, le move.
I heard and read about all the hype for Alex Saar as he comes here and just swats this thing like he's playing volleyball. He is better than advertised. Saar, he's calling for it. He'll rise up from three, nothing but net. Alex Saar.
Alors, pour la première fois dans ce podcast, nous allons utiliser une machine temporelle, non pas pour remonter le temps, mais pour aller dans le futur. Oui, vous allez me dire, quel joueur après Victor Wembanyama, quel est le prochain joueur français à exciter la NBA? C'est Stephen Brun qui va commencer.
C'est moi qui commence, mon grand.
Ouais.
Alors, j'aurais pu te parler de la formation Choletaise avec Tidjan Salin, le joueur de Cholet, la génération 2005, comme Zachary Rezaché et Alexandre Sarr, mais finalement, je me suis dit, je vais aller encore plus loin dans le futur, parce que tu nous as vendu un futur, je vais aller encore plus loin. Je suis allé chercher un garçon de la génération 2009, qui a donc 14 ans
aujourd'hui,
qui s'appelle Nathan Soliman, le fils de William Soliman, ancien international et ancien bon joueur du championnat de France. C'est un garçon qui est très très précoce, il a 14 ans, il fait 2m03. Il joue sur le poste d'ailier. Il n'a pas fini de grandir. C'est un garçon qui a été formé à l'Hermine de Nantes et au Pôle Espoir du Pays de Loire. Il est rentré au Centre Fédéral avec 2 ans d'avance. À 13 ans, il était déjà à l'INSEP. C'est la première fois qu'on accueille un garçon si jeune à l'INSEP. Quand il était en U15 championnat de France avec Nantes, il avait 12 ans. Donc il joue avec des garçons de 3 ans de plus, il a fait une pointe à 32 points, il a été très bon. Cet été, il était avec l'équipe de France U16, donc des garçons qui ont 2 ans de plus. Il a accroché la médaille de bronze avec un vrai rôle, il avait le 5e plus gros temps de jeu, il termine la campagne à 8 points, 5 rebonds et une passe. Là, on est sur la draft 2028, alors il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans, mais comme dirait mon ami Jacques Monclar, si les petits cochons ne mangent pas, lui, on risque
comment
de
marquer. Comment on fait 2m01 à 14 ans
2m03.
À 14 ans, il y a des...
C'est pas ouf, hein.
Non, mais à 14 ans, la plupart des mecs, ils doivent faire
1m50.
Tu mesures
combien à 14 ans, toi ? Je sais pas, mais à 15, je faisais 2m07 déjà.
À 15 ans, tu faisais 2m07
ah, je faisais 2m17, à un moment, il faut que je reprends.
Mais il va les faire, hein, à 15, c'est dans un an, il va bien prendre 4 centimètres.
Tu connaissais mieux le haut de leur tête que leur visage, quoi, en vrai.
Bah non, je côtoyais que des grands, donc c'était assez logique.
Nathan Soliman. Bon, voilà. 14 ans, par contre, bon, et on est d'accord, il n'y a aucune certitude, quand même.
Ah non, il n'y a aucune certitude, mais il y a beaucoup d'attributs.
À toi, Fred.
Ben, si je te parle de match de préparation contre la Team Ignite à Las Vegas, tu penses à qui ? Victor Wembanyama.
Oui, pourquoi
ouais,
pas.
Ben
oui.
Non, mais moi je vais te parler d'Alexandre Sarr qui a sorti 2 matchs, 40 sur l'ensemble des deux matchs, il a 43 points, 18 rebonds, 12 contre.
Alors on parle d'Alexandre, pas d'Olivier Sarr.
Exactement,
hein, Alexandre, le frère. Olivier Sarr est déjà en NBA.
Il est déjà, il a un two-way contract, je crois, au Kessie,
oui.
De mémoire. Et donc, je te dis, il a fait une impression folle à ce.
C'est quoi son parcours,
matchs,
ce garçon
là. C'est un Français déjà qui a joué, qui est pro depuis 2021. Il a joué en Overtime Elite. Donc déjà en 2021, c'est la team Overtime, tu vois, cette compétition un peu
particulière. Espèce de ligue créée pour les joueurs de respect, tout ça.
À jouer, par exemple, etc. Donc il a déjà 2 saisons dans cette ligue-là. Là, il a signé en Australie, dans le Next Star Programme, mm-hmm. qu'on connaît très bien aussi parce qu'il forme des joueurs NBA. C'est un intérieur français de 2m13, il a 18 ans, il est dans les mock drafts prévus 4e à la prochaine draft. Donc c'est quand même très très fort. Il joue à Perth, et le dernier match qu'il a fait, c'était vendredi.
À Perth en Australie, bien sûr.
Exactement. Il a joué contre Adelaide. Alors le nom est un peu pourri, mais c'est une vraie équipe. 16 points, 6 rebonds à 6 sur 10, donc 2 sur 3 à 3 points, 2 contre en 20 minutes. Donc un joueur avec un potentiel fou. Moi, j'ai vu des Américains commenter les matchs en disant « Il a un petit truc de Kevin Durant, ce joueur.
Okay. » Grand fin, longiligne.
Ouais. C'est quoi ?
C'est un 4. Alors, je pense qu'avec sa taille, il pourrait jouer 5, mais c'est un vrai 4. Ouais. C'est un vrai profil 4.
Donc Alexandre Sarr.
Très, très intéressant. Mock draft,
prévu
4e.
Alexandre Sarr et...
C'est un coup de cœur, je sais pas ce que ça peut donner.
Charpie est de retour.
C'est un mec qui joue à Reims en U12.
Mais il y a un lien avec Reims. Non, je vais vous parler du petit Adam Atamna qui joue à l'ASVEL. Il a 15 ans, c'est un 2007 et il a planté 31 points en espoir. C'est les moins de 21 avec l'ASVEL, victoire face à Nancy. 31 points en 25 minutes, 7 sur 12 à 3 points. Il y a un petit lien avec Reims parce que j'ai connu son papa Karim Atamna qui était un bon shooter national 1.
Karim est assistant.
Et qui est assistant à l'ASVEL, Karim qui a roulé sa bosse en Pro B notamment, en National 1, qui était un formidable shooter. Et ben le fiston, 2007, il a 15 ans, il joue déjà en espoir Pro A avec l'ASVEL, il fait 1m92, il va évidemment grandir, donc là on est plus sur peut-être un poste d'arrière ailier et peut-être qu'il va aller décaler en 3-4, et ça me permettait de parler de sa performance. On est encore loin de savoir au niveau des mock drafts, parce qu'en 2007, il n'est pas attendu avant les 3 prochaines années, mais voilà. Petit petit clin d'œil pour Adama Tamnar.
D'accord. Et donc, personne ne me parle de Zachary Rizaché, qui est quand même peut-être le plus avancé, non, ouais,
c'est dommage. Le problème, c'est que c'était lui. C'est lui qui devait prendre Zachary Rizaché.
Non, non, on m'a dit de prendre Melvin Agença. Non, non, on m'a dit de prendre Melvin Agença.
Chacun choisit son joueur, il n'y a pas de conseil.
Non, mais c'est pas comme ça,
non, mais on a envie de vous faire découvrir des noms.
C'est quand même dommage de ne pas parler de Zachary Rizaché.
Alors, vas-y. Bah, dis-nous un mot quand même.
Bah, le fils de Stéphane Rizaché, champion, vice-champion olympique avec Fred en 2000 à Sydney. Zachary Rizaché, il est à l'ASVEL. Formé à l'ASVEL, prêté à Bourg. Il est prêté à Bourg. D'accord. Comme ça, l'ASVEL éventuellement récupérera un petit peu de cash
de
money.
De draft, s'il est parce que c'est sa dernière saison en France.
Vraisemblablement oui, parce que son année de draft, c'est l'année prochaine. C'est un garçon qui joue ailier, qui est très grand. Il fait 2-4, 2-5. Très longiligne, très fin. Beaucoup de talent, délié. Capable de finir au dunk, du tir à 3 points, du petit fadeaway. Et donc il est parti à Bourg pour avoir beaucoup plus de minutes. Il vient de faire son match référence, qu'il a mis 24 points, je crois, le week-end dernier, record en carrière contre Nanterre. Et alors Pascal, ça défend pas mon petit Pascal Audonadieu. Hein. Et donc c'est.
Il fait un bon début de saison en plus.
Bourg qui fait un bon début de saison, qui est tout en haut au classement. Il y a l'Eurocup cette année, donc il va avoir des minutes en Eurocup. Et l'année prochaine, ça sent le top 10, je pense. Allez, je ne vais pas m'en cramer, je vais dire top 10.
Est-ce qui va être intéressant pour Zachary Rizaché, il peut peut-être bénéficier de ce qu'a fait Victor Wembanyama l'année dernière pour donner des repères, notamment aux Américains, de se dire voilà ce que faisait Victor Wembanyama, il marchait sur la ligue. Bah, regardez le petit Rizaché, je ne dis pas qu'il fait autant, mais ça peut donner plus facilement une valeur. Et à notre championnat de France, il y a peut-être un coup à faire. Plutôt que d'aller en Australie, qu'est-ce que ça vaut, ça, éventuellement, dans d'autres ligues, l'aider.
On n'a quand même pas le programme Nextstar, qui est vraiment un programme extraordinaire pour développer les joueurs. Hein. Ils ont un temps de jeu garanti, ou quasiment. Ils ont un préparateur physique attitré et un diététicien aussi. Hein.
Mais alors, c'est question justement pour ces profils-là, question qui concerne l'ASVEL. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux d'avoir un second rôle à l'ASVEL et de jouer l'Euroleague ou de partir dans un club moins huppé, comme a fait Victor Wembanyama, comme a fait Zachary Rizaché, accumuler les minutes, mais ne pas connaître le très très haut niveau. Quelle est la meilleure solution?
Pour moi, c'est au cas par cas, ça dépend. Un joueur comme Victor, il aurait pu aller jouer n'importe où, il aurait été intéressant, il fallait le voir jouer, voir qu'il était en bonne santé physiquement et qu'il pouvait faire des choses. Je pense que ça, être confronté au meilleur, c'est toujours hyper intéressant. On a l'exemple de Luka Doncic, hein, qui a montré qu'avant de partir, était le meilleur joueur de l'Euroleague. Mais tout le monde n'est pas aussi précoce que ça, et ça ne veut pas dire que tu sois mauvais.
Et pour le coup, s'il était resté à l'ASVEL, il aurait eu du temps de jeu, Zachary Rizaché.
Déjà, il faut arrêter de croire que Zachary Rizaché n'a pas joué l'année dernière.
Non, il a joué, mais il jouera beaucoup plus à Bourg. Non, mais
il n'a pas le même temps de jeu.
Oui, il jouera plus à Bourg.
C'est normal.
À son âge, il a quand même joué, de 12 ou 13 minutes de moyenne en Euroleague en démarrant des matchs. Mais après, bon, ils n'étaient pas contents. Son entourage n'était pas content de l'utilisation parce qu'il voulait qu'il ait plus le ballon en main. Il va arriver à Bourg où justement il va avoir plus le ballon en main.
Oui, c'est ça.
Plus de responsabilité aussi.
Minutes.
C'est pas que les minutes. Les minutes, tu peux les avoir, mais si tu es dans un très grand club, un grand club en France qui joue
c'est
une grande compétition,
tu as
des joueurs qui sont peut-être plus huppés et qui ont plus de responsabilités que toi et qui se retrouvent souvent peut-être en bout de chaîne, t'es pas à la création et dans ton développement
plus de
personnel.
Pression, tout simplement dans l'équipe, donc forcément le ballon il va pas t'atterrir dans les mains quand c'est chaud.
Zachary, il va jouer des pick and roll, il va être à la création, il va faire des choses qu'il aurait peut-être pas pu faire à l'ASVEL.
C'est tout le problème, rapidement Pierre, de l'ASVEL où il y a des obligations de résultats. Pour le club, pour TJ Parker, et d'allier ça au développement des joueurs. Et parfois, c'est un petit peu compliqué parce que TJ Parker, il est quand même comptable de ses résultats. S'il fait pas.
Il est comptable de ses résultats.
Mais voilà, et forcément, c'est difficile à allier.
On a fait le tour de la question, c'est donc l'heure du quiz. Bon, alors, de toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz.
Qui termine dernier.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée.
C'est Christian, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
C'est la Watt que je préfère.
Et tu sais quoi ça?
J'en dis.
Oh
pardon.
Non mais alors.
Jermaine O'Neill.
Yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Ah ok, si.
Absolument pas Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
C'est un quiz dont le thème est les numéros 1 de la draft, puisqu'on était sur un spécial Victor Wembanyama, numéro 1 de la draft 2023. Vous êtes prêts? Fred n'est pas prêt. Je vois Fred, il faut être prêt parce que la première question.
Il envoie un texto.
C'est une question de rapidité, la première question.
Rapidité.
D'accord. En 1969, sous quel nom est drafté celui qui deviendra
Lou Alcindor?
Abdul Jabbar.
Bien sûr, Lou Alcindor.
Lou Alcindor, c'est pour Fred Weiss. Bravo Fred, je l'ai dit, hein, rapidité. Vrai
l'idole
ou faux?
De mon papa, on s'en fout. Mais
vrai ou faux? Vrai ou faux? Chacun son tour. Stephen Brun.
Oui, bonjour.
Deux joueurs des Bahamas ont été numéro 1 de la draft.
Oui.
C'est vrai ou c'est faux?
Moi, je crois que c'est... DeAndre Ayton est Bahaméen, il est numéro 1 de la draft. Karl Anthony Towns n'est pas numéro 1 de la draft.
C'est Rep Dom, hein.
Ah, c'est Rep Dom en plus, ouais. Donc je dirais faux. Ah non, 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 pardon, pardon, je vais dire vrai parce que la paire de Clay Thompson, ça fait deux numéro 1, oui, c'est vrai.
C'était juste, c'est vrai. Michael Thompson, en 1978.
Un flash, baby.
Drafté par les Blazers.
L'explication,
c'était
ça va.
Vrai, deux joueurs Bahaméens, numéro 1 de la draft. Arnaud, vrai ou faux? James Worthy, drafté numéro 1 en 82 par les Lakers, n'a pas fait une seule saison NBA en dessous des 10 points de moyenne.
C'est vrai.
C'est absolument vrai. Son plus bas total, c'est 10,2 lors de sa dernière saison. 12 saisons de NBA.
Il en valait la peine. Moi.
Au-dessus des 10 points et souvent largement au-dessus. C'est quand même une belle stat.
C'est incroyable. Et c'est un joueur incroyable.
Donc c'est bon pour Arnaud.
Je sais pas s'il a eu la blague en anglais. Vous pensez?
Si, quand même. Non.
Oui, oui, oui. On n'est pas obligé de s'arrêter sur toutes c'est les vannes de Stephen, sinon le podcast fait 2 heures. Fred Weiss, vrai ou faux? Lors de sa première saison en 1984, Hakeem Olajuwon portait le numéro 1 pour souligner qu'il était le premier Africain numéro 1 de la draft avant de choisir le 34 l'année suivante.
T'as vraiment inventé une anecdote comme ça?
Non, c'est oui.
Ben non, c'est faux, j'ai tout inventé.
Il a inventé l'histoire, mais comment c'est possible?
Et franchement, c'est vrai, c'était trop gros.
Non, c'est faux, c'est sorti de mon esprit tordu.
Incroyable.
Alors là, maintenant, c'est tous ensemble. Hein.
Tous ensemble.
Écoutez bien la question, hein, parce que après vous allez me dire, ah, c'est compliqué, j'ai pas compris. Je vous donne le binôme, je vous donne l'équipe, et vous me donnez le joueur drafté numéro 1. Exemple.
Comment ça, binôme?
Exemple.
Dwayne Wade, Miami, réponse, LeBron James. C'est simple ou je vous la refais?
Ok. Ok, c'est bon, je l'ai.
Vous pouvez arrêter la question.
Tu lui donnes un binôme célèbre dans une équipe, tu lui donnes le nom d'un mec.
Le binôme, voire de deux coéquipiers.
Donc parce tu commences, donc binôme, l'autre t'es après.
Vous devez trouver le numéro 1 de la draft qui a joué donc avec ce joueur avec ce dans cette équipe. Okay. C'est bon, ouais. Fred, toujours pas avec nous?
Je suis avec toi.
Allez, on commence avec... Chris Paul.
Chris Paul, c'est les gâteaux, ça, c'est les biscuits.
Chris Paul.
Blake Griffin.
Les Clippers.
Ouais. Blake Griffin,
bonne réponse d'Arnaud Valadon. On enchaîne. Kevin Durant, les Nets.
Ben Simmons.
Kyrie Irving,
excellent, bravo Fred. Jrue Holiday, New Orleans Pelicans.
Anthony Davis,
c'est bon, vous avez chacun marqué un point et donc on est à 2 points pour chacun des 3 joueurs, Fred, Stephen et Arnaud. Ah, quel numéro 1 de la draft?
Ah, c'est un autre jeu là.
Oui, on va passer à autre chose. Quel numéro 1 de la draft parle dans l'extrait suivant? Je vous donne la rubrique de l'interview, s'appelle « What were you thinking ?» Donc on va poser une question à un numéro 1 de la draft.
À quoi tu pensais?
Que pensiez-vous à ce moment-là? On écoute.
What were you thinking when you dropped 21, 20 rebounds, 10 assists and 8 blocks in that finals clincher against the Nets in 2003? Because that was a performance.
What was I thinking? Luckily, I wasn't. It was just such a moment where...
Duncan?
Tim Duncan, excellent. Bravo, Arnaud. Bravo, Arnaud.
Je cherchais un mec qui parlait bien.
Oui, mais
il parlait
bien.
Mais d'habitude, il
je pensais qu'il était plus. Ouais. Il parlait plus doucement, en fait. C'est pour ça que j'ai d'abord pensé à Duncan.
Il était chaud, Timmy. Il avait pris un cacheton. Il avait pris un Walt Disney ou quoi?
C'est un peu la voix, mais d'habitude, Tim Duncan est un peu plus.
Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il parlait comme ça, moi.
Donc Arnaud prend la main dans ce quiz 3 points, 2 points pour les deux autres. Alors, on va rester sur Tim Duncan.
Qu'est-ce qu'il a, Tim?
Il y a une phrase célèbre qu'il a adressée à un autre numéro 1 de la draft. Donc, à qui a-t-il dit? Un jour, cette ligue sera la tienne. Mais j'apprécie que tu nous laisses une année de plus. Un jour, cette ligue sera la tienne. LeBron James après la finale 2007. Oui. Bravo, Stephen.
Trop facile.
Ah, on va revenir au flop ou en tout cas aux déceptions. D'accord. Aux déceptions des numéros 1 de la draft. Je vous donne les noms, les grands noms d'une draft qui n'ont pas été numéro 1. Vous devez deviner qui cette année-là a été drafté numéro 1. C'est clair?
Wow, c'est alambiqué tout ça.
Ouais. C'est très alambiqué, c'est le quiz de Pierre Dorion, c'est toujours bizarre. Alors voici les noms. Pour commencer, c'est facile. Pau Gasol, Gilbert Arenas.
Kwame Brown?
Tony Parker.
Quinn Brown?
Kwame Brown. Arnaud, il est bon sur les numéros 1 de draft, Arnaud.
Il est bon sur les flops de draft, surtout.
On enchaîne. Deuxième proposition. Vince Carter, Dirk Nowitzki, Paul Pierce en 98, c'est Michael Olowokandi. Bravo, Fred.
Tu dis non, tu l'as dit non. Tu m'as dit non, je croyais que c'était pas ça.
Si, si, c'est
non. Ah, on est d'accord, tu m'as dit non.
J'ai dit non.
Ouais. Je sais pas, tu l'as regardé, tu sais.
Non, j'ai juste fini le Paul Pierce. Troisième proposition, Jason Tatum,
D'Aaron Fox, Bennett,
Donovan Mitchell. Vous m'avez dit Anthony Bennett, ouais. Les deux. Non, c'est pas
André
ça.
André Bargnani.
Non. Jason Tatum, D'Aaron Fox, Donovan Mitchell.
Markel
Fultz, bravo, ah. Stephen. Est-ce qu'on peut dire que c'est un flop, Markel Fultz?
Faut attendre de voir. Beaucoup de blessures, il a loupé beaucoup de saisons, mais c'est pas un mauvais meneur de jeu.
C'est intéressant car c'est très serré. Ce qui veut dire d'ailleurs que vous êtes bon, je tiens à vous féliciter. Il ne me reste plus que la question multipoint. Le score, je vous fais le point. Stephen 4, Arnaud 4, Fred 3. 11 joueurs dans l'histoire de la NBA sont numéro 1 de draft et MVP. 11 joueurs, 11 noms, un point à chaque bonne réponse. Et MVP.
Pas l'année.
Je suis en retard, je commence.
C'est absolument toi qui vas commencer. On soit bien d'accord, ils ont été numéro 1 de draft et ensuite ils ont été MVP une autre année, bien entendu. Hein. 11, il y en a 11. Fred.
LeBron,
c'est bon. 4 fois MVP. Steve.
Magic Johnson.
Magic, c'est bon. 3 fois MVP. Arnaud.
Liu Alcy, enfin Karim Abdul-Jabbar.
Absolument. 6 fois MVP. C'est bon. À toi, Fred.
Hakim Olajuwon,
c'est bon, mon cher. Une seule fois, c'est bon. Steve.
Shaquille O'Neal,
c'est bon, bravo. Est-ce que tu veux que je te dise combien il en reste avant que tu me donnes un nom ?
5 ou 6, non ?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tim Duncan,
2 fois MVP, c'est bon. Ça devient un peu plus dur, mais il en reste quand même à trouver, là.
David Robinson,
c'est excellent pour Fred, qui égalise, donc il revient à hauteur. Steve.
Allen Iverson,
c'est excellent pour Steve, qui reprend la tête. Arnaud.
Ah, c'est chaud.
La journée.
Il n'en reste que 3.
C'est chaud. Écoute, je vais aller chercher un Julius Erving.
Non, c'est pas bon.
Numéro 1.
C'est pas bon. Tu ne gagneras pas ce quiz.
Derrick Rose.
Derrick Rose. Oui. Exceptionnel. Il en reste que 2. Et pour l'instant, on est sur une égalité entre Steve.
Mais j'en ai plus, par contre.
Et Fred, non, mais il faut réfléchir.
Ah, on peut trouver. Il en reste combien ?
Il en reste 2.
Il en reste 2.
C'est des grands noms, c'est juste qu'il faut remonter le temps là. Là maintenant, il faut aller plus loin là.
Ah ouais, frère.
Il faut aller plus loin. Je vous le dis tout de suite, c'est plus la génération à partir des années 90 là. Hein. Ah
bah, Bill Russell ?
C'est pas bon, Bill Russell.
Putain, j'hésitais avec Jerry West.
C'était pas bon non plus.
Oui, mais... sur Berlin ?
Alors, réfléchis bien. Parce que là, si tu marques un point de plus, t'as gagné. Sinon, il y a encore match nul deux semaines.
C'est trouvable ?
C'est trouvable. Oui. Si je te donne des indices, c'est trouvable.
Non, je te demande juste s'il est trouvable.
Ouais, c'est trouvable. C'est des très grands joueurs. Hein.
Enfin, c'est la même draft que Jerry West.
Oui, par contre, excuse-moi de te déranger. Avant le début du quiz, il avait un point de retard. Comment peut être égalité maintenant ?
Parce que là, tu viens de chuter. Donc, il a trouvé une réponse de plus que toi. Il est toujours en course. Donc, s'il en retrouve une de plus, il sera devant. Vous avez 7 points chacun et Arnaud a 6 points.
Donc là, il en reste 2.
Il en reste 2.
Et c'est 2 vieux.
2 vieux. 2 vieux et je te laisse 15 secondes pour te décider. Pas plus, parce qu'après c'est trop long.
Baylor ?
Non, c'était Oscar Robertson.
Ah bah oui.
Et là, tu vas voir la haine, Bill Walton quand même.
Ah, Bill Walton.
Ouais. Eh oui, bah, on en a parlé la semaine dernière. C'est donc de nouveau une égalité. Il va falloir que je vous prévoie une question subsidiaire pour vous départager la semaine prochaine. À la semaine prochaine, messieurs.
Au revoir, Pierre.
Au revoir.
Basket Time.